communisme sera le mort à le brasier, qui consumera le vieux monde sera le mort à le brasier, qui consumera le vieux monde sera le mort à le brasier, qui consumera.
Bras zéro, brassage radio. Salut tout le monde. Eh ben, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris l'antenne, mais ce soir, on reprend les studios pour vous faire entendre un documentaire sonore nommé Bled Rumeur. Il est réalisé par Julien Baroguel. Pour une courte phrase d'introduction, ce documentaire est décrit comme une plongée dans le monde adolescent autour des questions vastes et floues d'identité. Pour le reste, on vous laisse l'écouter et on se retrouve juste après pour discuter avec Julien qui nous fait le plaisir d'être ici pour le présenter. Bonne plongée.
Donc là, j'ai un paysage vraiment magnifique. Enfin, d'ailleurs, j'ai une carte postale de ce paysage-là.
Au loin, la plage, un petit marché.
C'est même pas une ville, je crois que c'est un village.
Oui, c'est la campagne, c'est vraiment les mamies avec le chapeau, vous savez, le bien rond, là, en tailleur, même pas, si sur les pieds, la croupie.
Beaucoup de gens qui parlent, qui dansent.
Tout le temps de la musique, enfin, très festif.
Et oui, il y a un karaoké.
Avec des klaxons aussi, comme un brouhaha.
Ouais, c'est ça, ouais.
Dans le désert, au milieu des dunes et tout, c'est grand, enfin, on est au milieu de un peu de rien.
C'est une odeur un peu lourde, mais en même temps, ça sent lourd, ça sent très sucré.
Il fait chaud, il y a des nuages, le ciel est très bleu.
Les dragons, les divinités.
Des bestioles partout, des grosses araignées. Je suis arachnophobe, ça m'arrange pas trop.
Il y a une salle de prière énorme, avec beaucoup de lumière.
C'est magnifique. Et on voit l'agitation, enfin, c'est vraiment agréable à voir, c'est très joli. Moi, j'ai un peu oublié ces paysages-là. C'est plutôt mes parents qui en parlent.
Bled Rumeur, un documentaire de Julien Baroguel.
Les garçons, dépêchez-vous. Vous êtes déjà en retard, il est 58. Hein ? Bon, c'est à 8h. Vous savez que la sonnerie, elle est à 55. Première sonnerie, 7h55. Deuxième sonnerie, 8h. Allez, dépêchez-vous tous les deux. Bonjour. Les garçons, ce soir, c'est votre conseil de classe. Ouais. Bah, parce que c'est moi qui vous garde.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas t'approcher un petit peu. L'idéal, c'est que tu sois à peu près à 10 cm du micro.
Ok. Okay.
Ton prénom, c'est...
Moi, c'est Younes. Younes.
Alors,
Younes, à la fin, on a Ness. Ness, j'aime bien. Mais il y a beaucoup de choses en trois lettres et avec un N et un S et même des fois un E. Le monstre du Loch Ness. Il y a Nas, un rappeur américain. Il y a déjà beaucoup de choses. Donc, j'ai rajouté une petite lettre. Ça faisait Nice, N-E-A-S. Et je me disais en anglais, waouh, qu'est-ce que c'est stylé ça? Alors, l'histoire familiale, je vais pas en faire beaucoup de comptes, j'en sais pas tant que ça, en vrai, pour jouer sur l'honnêteté. Ma mère est ardennaise, mon père est tunisien, il est arrivé, il est né en France, non, il est pas né en France quand même pas, il est né en Tunisie, et ça fait une diversité, et ça fait aussi des fois. Un petit peu perdu, je pense. Ouais, je pense qu'on est un petit peu perdu.
Ici, on est un lycée dans lequel il y a beaucoup de gens qui ont des origines étrangères. C'est vachement un sujet de conversation. C'est vrai qu'il y a plein d'interrogations autour de ça et des choses auxquelles on parle pas forcément avec notre famille, mais dont on parle entre nous, quoi. Parfois, en me voyant, les gens pensent que je suis full française ou que je suis full arabe. Du coup, je demande à mes potes,
vous pensez que j'étais quoi quand vous m'avez rencontré et tout, parce que c'est ça, j'ai l'impression que ça change des choses en tout cas. J'espère qu'il va pas entendre ça, mais je pense à un camarade de classe cette année, dans les premiers jours. Et je lève la main et la prof dit oui, Eva. Et puis il se retourne et il me dit mais t'es pas une rebeu, toi. Et je lui fais si. Et j'ai vu la confusion dans son regard. Genre vraiment, il y a un truc autour du prénom. Et d'ailleurs, quand j'étais enfant, pendant très longtemps, je ne savais pas que j'avais des origines étrangères. Surtout, je ne savais pas que j'avais des origines africaines. Et quand mon père, je devais avoir 7 ans, un truc comme ça, mon père m'a dit qu'il était africain. Je suis arrivée, mais t'es africain, mais t'es pas noir, genre un truc du style, tu vois. Parce que j'étais vraiment dans le cliché, quoi. Enfin, on m'en avait jamais parlé, donc je comprenais pas. J'étais en mode, mais c'est pas possible et tout.
J'ai toujours cherché à m'identifier à ma mère ou mon père. Et j'ai jamais réussi à distinguer de quel côté j'étais. Mais c'est quand même, je pense, important de savoir avec quel dos on joue. Et de se sentir représenté par un côté, parce que on est entre deux camps, quoi. Et on aimerait en avoir qu'un seul, mais c'est pas possible, parce qu'on renierait l'autre. Et ouais, on n'est pas ceci, on n'est pas cela, on est entre les deux, qu'est-ce que c'est que ça?
Hello.
Non.
Yeah, bro.
Ce sujet-là, c'est un sujet qui nous touche particulièrement, parce qu'on est tous issus de l'immigration ici.
Oui, moi je suis marocaine.
Moi je suis marocaine. Elle est née en Espagne, oui. Par exemple. Elle est née au Maroc.
Moi je suis née au Maroc. Je suis née en Italie, ça va pas.
Mais tu en crie pas. Aïe. On est tous issus de l'immigration ici. Fena. Sauf lui.
Sauf moi, je suis.
Français.
Mais c'est un bon quand même, et on se mélange quand même. Et il apprend plein de trucs, il sait quelques mots en arabe et tout.
Ouais.
Si moi je sais dire, je veux de l'eau.
Vas-y.
C'est Britelma.
Je m'appelle Amélie Do, j'ai 17 ans maintenant, je suis en première au lycée Rive Gauche. Mes deux parents sont vietnamiens, du coup ils sont venus en France, mon frère a 27 ans, du coup quelques années avant ça, donc 30 ans entre guillemets qui sont là.
Je recule un tout petit peu le micro. La dernière fois, tu m'avais dit, j'avais noté ces phrases-là, tu m'avais dit, c'est toujours moi qui demande, il y a toujours des non-dits. Et après, tu m'avais dit, ils ont normalisé la chose, ils se sont tassés.
Bah oui, c'est toujours... Enfin, on m'a jamais... Par exemple, je sais pas, j'ai pas de photos de famille, par exemple, à la maison de mes grands-parents. Enfin, peut-être juste dans une salle, mais je sais même pas leur prénom, par exemple. Et des choses comme ça, juste on me dit, c'est tes grands-parents, point. C'est toujours cette question de d'où je viens. Et qui sont ces gens, en fait, que je vois littéralement dans le bureau tout le temps. On m'a jamais, par exemple, ouvert un livre et me dit « ça, c'est ci, ça, c'est ça ». Quand on voit, par exemple, le comparatif... Enfin, moi, je me comparais souvent à des petites filles dans ma classe, des amies, où là, elles savaient leurs arrière-parents, c'était qui et tout ça, alors que moi, c'était complètement flou, en fait. J'avais des bouts des récits, mais pas une entièreté.
Je suis jamais allée en Algérie. Ma famille, du côté de mon père, du coup, ceux que je connais, c'est parce qu'ils sont venus en France. Ils sont venus nous voir. Et c'est vrai que j'ai un lien assez peu fort, entre guillemets. Je parle pas arabe. Mon père m'a jamais appris l'arabe. Culturellement, je suis pas un lien très fort avec, avec l'Algérie. Voilà, après... je me sens quand même reliée à l'Algérie d'une certaine façon. Et je sais pas, c'est quelque chose qui me rend curieuse un petit peu parce que du coup, moi, j'ai pas ma propre vision de ce monde-là. J'ai l'impression d'être une mosaïque de tout ce qu'on me raconte, en fait. Mon père, enfin, planifie un voyage en Algérie. Pour l'instant, on le repousse toujours, mais mon père compte nous amener en Algérie bientôt. Dans un voyage familial, surtout que mon grand-père a 80 ans et donc il aimerait bien qu'on puisse voir la maison et le pays avant que mon grand-père meure, quoi.
Depuis petite, j'y vais du coup avec mes parents, tous les ans à peu près. Sauf que plus je grandis, moins je prends plaisir à y aller. Du coup, je pense sincèrement que je vais plus y retourner. Ou peut-être pas pour voir... ma famille, mais pour aller visiter le pays, vu qu'à chaque fois on reste qu'avec ma famille. Sauf que c'est ma famille, mais j'ai pas vécu avec eux. les discussions sont compliquées par rapport à la langue. Je parle arabe, mais pas autant qu'eux, et ils parlent super vite, et du coup, il y a quand même un petit décalage. Je trouve qu'on idéalise beaucoup l'Algérie. Enfin, c'est un lieu de vacances, du coup, quand on est petit. Mais plus je grandis, plus je vois vraiment, bon, à peu près dans tous les pays, mais du coup, les côtés négatifs. Et j'ai changé, du coup, mon regard par rapport à ce pays. Et du coup, visiter aussi d'autres pays, ça me tenterait plus que, du coup, aller en Algérie. Si j'avais le choix, je choisirais, du coup, un autre pays que l'Algérie.
C'est quoi ? La tempura de légumes. Des beignets de légumes.
Oh, c'est bien bon ça.
Ouais, c'est pas mal.
Tu me fais goûter, par contre, le guacamole, il pique un petit peu. Hein.
Ah, il y a du guacamole.
Au début, mais à la fin.
Oh, c'est vrai, il y a du fromage.
C'est des beignets de légumes.
Vous allez bien ? Ça va parfait. Merci bien, passez une bonne journée.
On me perçoit comme tunisien à la cantine. Parce que je ne mange pas de porc. Nous, on est l'équipe du poisson. Donc depuis la primaire, en fait, ouais, je suis tunisien. À la cantine. En dehors de la cantine, ouais, des fois, les gens se posent des questions. En fait, c'est en fonction de ma coupe de cheveux, hein, la plupart du temps, que je serai plus maghrébin ou plus pas maghrébin. Là, je suis maghrébin, là. J'ai laissé pousser les cheveux. Cette histoire de poisson, là, ça fait de moi un Tunisien. Ça, c'est sûr. Tunisien, non. Non, ça fait de moi un musulman. Donc, je suis plus perçu comme... arabe. C'est binaire. On est une chose, on n'est pas une autre chose. Et donc, ouais, je dois être Tunisien, je pense. C'est bizarre d'être lié à un endroit... sans y avoir nécessairement posé les pieds. Et c'est une relation un peu bizarre, ouais. C'est un petit peu flou pour moi.
J'étais dans un groupe de jeunes et il y avait un jeune d'origine maghrébine et il y a une des filles qui était là avec nous qui a eu des paroles vraiment très très déplacées, en fait, qui s'est clairement moqué du fait que le garçon en question mangeait pas de viande, puisque du coup c'était pas halal. Et on l'écoutait raconter ça comme si c'était normal, et elle a fini par nous dire que ouvertement que bah chez elle bah ils votaient FN quoi, et que ils étaient racistes et qu'ils avaient pas honte de le dire quoi. Ça a été très très bizarre comme moment, un peu lunaire,
et à ce moment-là dans ma tête il se passe un truc. Je me dis, alors soit la personne me perçoit juste française comme elle, et du coup elle pense qu'elle fait juste une blague normale avec quelqu'un comme elle et elle se rend pas compte de la vie, enfin de ses propos, ou alors elle se rend pas compte de l'impact que ça a sur moi. Et puis je me dis, ou alors la personne a compris. Et du coup, là, c'est juste que la personne est en train de m'insulter en face, hein, en fait. Et du coup, des fois, il y a ce moment un petit peu gênant parce que tu peux pas dire aux gens « Attends, quoi ?» Et du coup, bah, t'es là avec un petit sourire crispé en mode « Ah, c'est drôle, ça !» Et t'espères que c'était pas visé, quoi. Et puis souvent, c'est pas visé, je pense, mais juste les gens sont un peu trop à l'aise. Genre, quand j'étais enfant, parfois, on se moquait de mon nom de famille puisqu'il avait des consonances... étrangère. Et donc les gens faisaient mon accent avec un... Enfin, faisaient mon nom de famille avec un accent genre hyper déplacé, des choses comme ça. C'est pas grave, mais c'est juste que les gens te rappellent parfois que t'as un côté genre étranger et tout. Enfin, voilà. Moi, je trouve que parfois, ça peut être désavantageux. Après, je m'estime... j'ai de la chance parce que j'ai un prénom qui passe partout. Et j'ai une tête qui passe partout. Et j'ai une façon de me comporter qui passe partout. Donc ça me désavantagera pas trop. Puisque surtout, enfin, je suis pas complètement algérienne, quoi. Enfin, j'ai une mère française, donc ça aide beaucoup.
N.
N.
E accent aigu. Ouais. I tréma avec deux points. I, deux points. S-I-S.
S-I-S. Naysis.
C'est un peu compliqué au début pour que les gens y retiennent. Eh ben alors, moi, je suis franco
enfin antillo-guyano franco, enfin je sais pas trop comment dire, mais voilà, je suis antillaise, guyanaise et française. Et donc en primaire et en maternelle, mon objectif c'était vraiment d'être comme tout le monde, comme toutes les filles, de pas me démarquer pour pas me faire embêter. Et donc je voulais me débarrasser des accents pour pas qu'on se moque de moi, des choses comme ça. Et donc l'accent, il a très vite disparu. J'ai plus de souvenir de parler entier. Vraiment, ça, il est parti très vite. Étant petite, je pensais que c'était normal de devenir blanche. Pour moi, c'était l'idéal, la couleur de peau idéale. Il fallait être blanche. Enfin, mes amies, elles avaient des beaux cheveux longs et blonds, et moi non. Et donc je me comparais à ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'en ce moment, j'ai une petite sœur qui vit les mêmes choses que moi. Et en fait, j'ai l'impression de me voir quand j'étais petite, en fait, parce qu'elle commence vraiment à dire les mêmes choses que moi à mon âge. Enfin, elle a 6 ans. Et donc, la majorité de ses dessins, c'est des petites filles blanches et blondes. Et donc, du coup, j'essaie de lui poser des questions pour comprendre. Et je lui dis, Cléis, qu'est-ce que tu penses de tes cheveux? Comment tu te trouves, toi? Et elle me dit qu'elle se trouve moche, en fait, exactement comme moi, je disais.
Dans la cour de récréation, là, c'est vraiment les premières... là où j'étais confrontée au racisme. Ça peut être des enfants qui me disent « Ouais, Ching Chong, zat chinoise, tu bouffes du chien. » Donc des choses très violentes qui me fait poser la question de « Est-ce que je suis vraiment à ma place ? Ou est-ce que je suis une étrangère ?» Tu te rends compte qu'en fait, on attaque ton identité, ce que tu es. Ça te tue pas, mais ouais, bien sûr, ça te met dans des états pas possibles. Surtout aussi jeune. J'étais avec une amie, par exemple, à Paris, et j'ai reçu je sais pas combien de ni hao de ma vie. Moi, je l'ai intériorisé, le fait que je sois française. Mais oui, des fois, j'ai l'impression que ça rentre pas dans les oreilles de tout le monde, quoi. Enfin, je comprends pas. C'est quoi être français ?
De changer d'air complètement. En France, je trouve que ça me correspond plus trop, ça correspond plus trop à mes envies, à mes idées. Il y a déjà un passé colonial super compliqué. Et le fait aussi qu'on entend beaucoup parler de la religion, on nous catégorise directement avec la religion, alors qu'on est beaucoup plus que ça. On nous montre aucun bon côté, alors que je trouve qu'il y en a beaucoup quand même. On nous met tous dans une bulle, et je me sens un peu oppressée. Et je trouve que la France regarde beaucoup les religions directement. Et du coup, pour trouver du travail, surtout avec le voile, enfin, c'est super compliqué de voir mon futur en France. Et du coup, j'aimerais vraiment aller dans un pays où c'est libre. Mais je ne sais pas vraiment comment me mettre face à eux, de leur annoncer du coup, que je veux partir de la France. Ça va être super compliqué vu qu'eux, ils ont déjà vécu
un exil.
Oui, un exil par rapport du coup à l'Algérie et aussi au manque de leur famille. Et du coup, je redoute un peu leur réaction. Mais je pense que ça va bien se passer vu qu'eux l'ont vécu. Du coup, ils sauront du coup peut-être me donner des conseils ou des choses comme ça.
Quand on est à la fois l'un et l'autre, on peut se permettre de grossir une caractéristique ou l'autre selon ce qui nous arrange. Du coup, c'est vrai que parfois, je me dis, quand je dis aux gens que je suis franco-algérienne, des fois, je me dis, oh, je suis une arnaque parce que, en fait, je ne suis pas algérienne. Je n'ai pas de nationalité, je ne parle pas la langue, je ne suis même jamais allée dans le pays, je n'ai pas eu une éducation qui est très ancrée dans la culture algérienne. Donc des fois, je me dis, ouais, c'est vrai que je suis une arnaque parce que j'ai plus l'impression d'être une
enfin française à 100% que algérienne, et en même temps je me dis que c'est plus facile pour moi peut-être de comprendre ce qu'on me raconte et de m'intégrer dans un groupe de rebeux parce que j'ai ces origines là, donc c'est un peu ambivalent en fait comme impression, je pense. Déjà, si j'avais eu un prénom un prénom arabe, je pense que les gens me verraient différemment peut-être, parce que je sais que souvent je sais pas comment dire, souvent malgré mon nom de famille, on comprend pas forcément que je suis à moitié algérienne. Après, est-ce que ça changerait quelque chose? Je sais pas, peut-être que les gens auraient plus d'a priori sur moi, peut-être que les gens me font plus facilement confiance sans me connaître, en voyant que j'ai un prénom français, parce que quand mes parents m'ont raconté ce à quoi eux ils ont été confrontés, ben ça m'a permis de comprendre que ouais, c'était quand même plus facile de passer inaperçu, on va dire, en France, quoi, quand on a un prénom commun, on va dire. C'est assez triste parce que quand on va chez moi, je me rends compte qu'on a vraiment perdu notre identité antillaise. On ne fait plus du tout, même comparé à la sœur de ma mère. En fait, elle habite à Colomiers et vraiment nos deux maisons, c'est complètement différent. Chez nous, c'est vraiment... c'est un peu la honte de dire ça, mais en fait, on a un peu perdu notre culture antillaise. On fait plus trop de... On n'écoute pas des chansons antillaises, on ne fait pas des repas traditionnels, tout ça, tout ça. Alors que la sœur de ma mère, ma tante, elle fait ça tout le temps. Donc, c'est... Des fois, quand ma mère va la voir, elle essaie de dire « Ah, mais moi, j'ai écouté tel artiste, t'as vu tel artiste, a sorti une chanson pour montrer qu'elle s'intéresse quand même. » Mais quand on est chez nous, c'est secondaire. Il y a des jours où j'ai l'impression, je ne sais même plus si je suis antillaise ou pas, Je côtoie jamais d'antillais, je fais jamais rien, je fais aucune activité qui a un rapport avec ça. Et surtout quand ma mère, elle me parle de tout ce qu'elle a fait, elle, quand elle était jeune aux Antilles, puisqu'elle a grandi là-bas. Elle faisait partie de groupes de groka. Le groka, c'est une danse traditionnelle que font les jeunes filles aux Antilles. Elle a été Miss Guadeloupe, elle a fait plein de choses pour sa commune, pour son île. Et donc des fois, je me dis, mais moi, je suis même pas là-bas en Guadeloupe, je vivrai jamais ces expériences-là. Des fois je me dis que si j'avais grandi en Guadeloupe, ma vie aurait peut-être été mieux, je sais pas.
Plus jeune, ma mère m'amenait beaucoup à la pagode, donc le temple, enfin l'église pour les bouddhistes. Et du coup, ma mère m'avait... Enfin, c'est elle qui tenait du coup les cours de danse, justement pour les Nouvel An et tout ça. On faisait des petits spectacles de danse et tout ça, avec les dragons qui passaient. Bref, c'était sympa. Sauf que... Moi, j'y voyais toujours un problème, parce qu'en fait, il y avait toujours cette chose-là de « fais-le parce que les enfants de mes amis le font ». Et donc, si tu le fais pas, je suis la risée de tout le monde, quoi. C'était un peu chiant, tu vois, d'avoir une gosse qui parlait pas vietnamien et qui était pas bouddhiste, alors que tous les gosses faisaient la même chose. Et du coup, ouais, je pense que ça, elle a mal vécu, entre guillemets. Après, elle l'a accepté au fil du temps, quoi. Enfin, ça fait 17 ans que je vis avec elle. Je comprends la pression que ma mère a pu avoir vis-à-vis de ses pères. J'ai plus de recul maintenant.
Yeah. qu'on nous parle des branches de l'islam? Ah, voilà. Je vais le lire dans ma tête, après je pense que je vais faire une lecture à voix haute.
Ok.
Ok, je vais essayer de faire une première...
Ouais, ok.
Scission en deux grandes branches. L'islam se décompose en trois grandes branches qui regroupent d'une part les sunnites et les chiites, et d'autre part, infiniment plus minoritaires, les kharijites.
J'ai deux livres. Les titres ne font absolument pas rêver. Donc j'ai un livre, le Coran, et l'autre, l'islam pour les nuls.
Ce mot vient du mot sunna, qui signifie la tradition, c'est-à-dire les pratiques adoptées par Mohamed et les premiers musulmans.
J'ai acheté ça par... je me suis dit, il faut que je me renseigne. Parce que c'est un petit peu la honte de pas savoir tout ça, en fait. Faut que je m'y intéresse.
Le mot chiite vient du mot shiha, qui signifie la partie 2. Et renvoie aux partisans de Ali, qui considérait que la direction religieuse et politique de la communauté musulmane devait toujours rester dans la ligne de Ali et de sa femme Fatima.
Je ne saurais pas encore me dire si je me considère comme musulman. J'ai grandi dans cette religion sans trop pour autant la connaître.
Division du chiisme en plusieurs sous-groupes, avec notamment celui des duodécimains, les partisans du 12e imam.
Je pense que quand on est avec des mains, on sait qu'on a des mains et on se pose pas la question de qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est pareil pour la religion, je pense. On est dans la religion, on grandit en se disant que c'est normal, et au bout d'un moment on se dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est d'ailleurs la religion, qu'est-ce que c'est que Dieu, etc. Et ouais, je suis en quête d'existentialisme. Oula, comment on dit? Alors là... Ouais, je recherche. Je serai une période de recherche et... Puis ouais, 16 ans, c'est peut-être l'âge. Hein. C'est peut-être l'âge auquel on se dit... Bon, qu'est-ce que papa fait quand il se met à genoux devant Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il récite? Quel est le sens des paroles qu'il porte? Pourquoi il y croit? Tout ça, quoi.
Cet été, je suis partie au Maroc et que c'était la première fois que j'allais au Maghreb. Donc, même si c'était pas dans mon pays d'origine, bah, il y a quand même eu, j'ai envie de dire, une étape de franchie. Donc, voilà, je pense que c'est ce voyage au Maroc, c'est quand même quelque chose qui a fait avancer la, enfin, peut-être pas la réflexion, mais la vision des choses que j'avais, quoi. Déjà, c'était une colo, donc c'était pas avec ma famille. C'était un voyage de 3 semaines. On est parti de Marrakech, on est allé dans les montagnes de l'Atlas. Ensuite, on est allé vers le désert, vers Merzouga. On est remonté par Fès, Chefchaouen. On est arrivé sur la côte méditerranéenne. Ensuite, on est repassé vers l'Atlantique Nord. Ensuite, Atlantique Sud, et on est reparti à Marrakech. C'était très... je sais pas comment dire. En fait, ça m'a fait quand même quelque chose... Je pense que ce qui m'a fait le plus quelque chose, c'est quand j'ai passé la nuit dans le désert. En fait, on a fait une heure de dromadaire. Ouais, une heure de dromadaire jusqu'au camp. Et en fait, bon, moi, c'était la première fois que je faisais du dromadaire déjà. Donc, j'étais un peu impressionnée. Mais bon, d'ailleurs, ceci dit, de moi-même, je ne referais pas du dromadaire parce que... Enfin, je trouvais que c'était pas... Enfin, c'est pas que faire du dromadaire, c'est pas ouf parce que c'était super bien comme expérience, mais... Ça me gênait de nous voir en tant que troupeau de touristes sur des dromadaires comme activité divertissante, je sais pas, je trouve ça un peu gênant. Et quand on est à... Enfin, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que la famille de mon grand-père et tout, ils faisaient ça régulièrement, mais pas en tant que touriste et pas en tant que divertissement. Et je sais pas, il y avait un décalage, je regarde les gens autour de moi et je me suis dit, c'est bizarre comme situation. Ensuite, on est arrivé, donc on s'est installé, on a mangé le soir entre nous. On s'est juste posé du coup autour de ce feu et voilà, et on a enfin il y avait d'autres touristes et du coup les gens étaient contents, les gens dansaient, les gens rigolaient et tout. C'était
C'était vraiment pas mal, mais vraiment, j'étais dans une phase d'introspection. Moi, j'étais dans le sable et tout, et je me suis dit, waouh, ouais, c'est... Je sais pas, genre, j'ai eu un moment de... Je sais pas, d'envie de faire plus que ça, quoi. Je me suis dit, c'est la première fois que je suis dans le désert, et mon grand-père, lui, bah, il a commencé sa vie dans le désert, et lui, ça lui évoque des souvenirs d'enfance. Donc pour lui, c'est un commencement, et moi, c'est la première fois que je vis bah, quelque chose que lui, il a dû... vivre. Je sais pas, je me suis sentie connectée à lui et je me suis dit j'ai besoin de voir ce que lui il a vu, mais encore plus précisément, parce que là c'est un peu une illusion de... Enfin, je sais pas comment dire, c'est un peu une illusion, mais je suis pas vraiment là où lui il a été, et du coup j'ai eu envie d'être là où lui il a vraiment été, quoi.
Et justement, ça en est où ce projet de voyage en Algérie?
Je pense que... Enfin, ça a bien reculé. Je pense qu'on ira pas avec mon père, voilà. Enfin, en fait, c'est plus trop d'actualité pour plein de raisons. Après, j'irai probablement en Algérie un jour, mais peut-être pas avec mon père et tout, donc voilà.
Bled Rumeur, un documentaire de Julien Baroguel. Avec la participation de Younes Mahamdi, Eva Hamdi, Amélie Do, Louisa Brahimi et Neisis Stanislas Calviac. Montage et mixage, Ludo Mepa. Un remerciement particulier à Dominique Burlot, professeur documentaliste au lycée polyvalent Rive-Gauche de Toulouse, ainsi qu'à Éloan Ledose. Merci à l'équipe et aux jeunes de la MJC d'Ampalo, à Thomas Pi, association Le Pavé, au Pradette, aux gens de la pagode de Cornebarieux, ainsi qu'à Emmanuel Courège, professeur d'histoire, et Christophe Bessac, proviseur du lycée. À Thomas Belay, Marc Latané, Yamour Gogdouman, Guizane Humo, et au collectif La Disquette. Merci à tous les jeunes qui ont croisé mes micros, ainsi qu'à leurs parents. Un projet soutenu par le dispositif Été culturel, mis en place par la DRAC Occitanie.
Eh bien voilà, on vient d'écouter Bled Rumeur de Julien Baroguel qui est avec nous ce soir. Salut.
Salut.
Du coup, on a préparé des petites questions qu'on va partager jusqu'à 20h. La première des questions, c'était un peu, est-ce que tu as envie de nous dire un petit mot sur toi de présentation,
ouais.
Quoi.
Ouais, donc bah, voilà, je m'appelle Julien Baroguel, je suis réalisateur de documentaires radio. À côté de ça, je fais aussi de la production sur des films documentaires. Okay. Et je travaille à Toulouse avec un collectif qui s'appelle La Disquette, où on fait essentiellement du doc radio, mais aussi du doc film et des ateliers autour de la radio, de l'image, voilà.
Ok, très bien, Julien. Donc là, dans le documentaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, en premier, les jeunes y décrivent des paysages. Et moi, j'avais envie de demander le même exercice à Julien, d'essayer de nous décrire un paysage d'un de ces moments ou de plusieurs passés avec les jeunes.
Ouais, alors le début du paysage, pour moi, comme là, on est à Toulouse, donc ça évoquera sûrement quelque chose aux gens, c'est ce lycée qui est entre l'hippodrome et l'université du Mirail, donc à proximité du quartier du Mirail. D'ailleurs, le lycée s'appelait lycée du Mirail avant et s'appelle maintenant Cité scolaire Rive-Gauche. Le deuxième paysage que j'ai quand je repense à ce travail, c'est celui du CDI, parce que la plupart des rencontres avec les jeunes se sont faites au CDI du lycée. Donc dans le CDI, il y a un studio radio, donc la plupart du temps, on était en fait dans ce studio radio pour être suffisamment au calme. Mais voilà, je pense que ça a une importance. Les rencontres que j'ai faites avec ces jeunes, qui s'étalent à peu près sur une année scolaire, elles ont tout le temps lieu quasiment au CDI de leur lycée. Voilà. Après, il y a eu des sessions d'enregistrement chez eux, dans la rue. Je me souviens notamment d'une session d'enregistrement où on était sur un trottoir sous une averse. Voilà, donc il y a des
truc un peu plus de l'ordre de l'aventure, mais la plupart du doc, en tout cas, se situe au lycée, au CDI, et puis on entend aussi un petit peu la cour de récréation, le self aussi, le terrain de basket. Voilà, c'est la plupart des éléments sonores, en tout cas, sont au lycée.
Ok, d'accord. Et justement, Blade Rumeur, c'est quelle année?
Tu veux dire le début du projet, la fin du projet?
Ouais, on avait envie de te demander un peu à Brasero si tu voulais nous raconter les étapes de construction. Et du coup, peut-être que pour toi, c'est quelle année?
Alors, ce projet, il a une chronologie un peu particulière parce qu'au départ, j'ai commencé à l'écrire pendant le confinement, donc 2020. Dans un état un peu, qu'on a tous et toutes vécu, quoi, d'enfermement. C'est quelque chose qui m'a ramené un peu vers ces questions, des origines, de la transmission. Et à ce moment-là, en fait, moi, j'ai écrit un projet sur le bled, le retour au bled, le fait de retourner dans le pays d'origine, le pays des parents. Et en l'occurrence, pendant le confinement, le fait de ne pas pouvoir y retourner. Au départ, c'était un projet sur l'été. Ces jeunes qui ont l'habitude de retourner au pays de leurs parents tous les étés et qui, là, ne pouvaient pas y aller, qu'est-ce qu'ils allaient faire cet été? Bon, confinement, c'était compliqué. J'ai eu un peu de mal à rencontrer des jeunes. Je suis passé par pas mal d'associations. Ça a pris beaucoup de temps. Ce qui fait qu'il y a eu toute cette première phase de recherche, on va dire. Et en 2022, donc un an et demi après, après avoir essayé pas mal de choses, ça fonctionnait pas, j'ai rencontré des jeunes aussi très très jeunes, et du coup le venir avec toutes ces questions-là, ça fonctionnait pas trop. Donc là j'ai eu l'idée de contacter des gens à l'intérieur de ce lycée où j'ai bossé, j'ai fait pas mal d'ateliers radio là-bas pendant plusieurs années, et j'ai d'ailleurs fait un précédent documentaire aussi avec l'équipe de football féminine dans ce lycée. Donc là j'ai contacté les profs que je connaissais dans le lycée. D'ailleurs, je passe un petit coucou à Dominique Burlot, qui est documentaliste et qui m'a beaucoup aidé sur ce projet-là. Et c'est par son intermédiaire que j'ai pu laisser une petite annonce en fait au CDI. Et c'est les jeunes qui m'ont contacté par mail. Les jeunes qui étaient intéressés, qui sont venus vers moi. Donc là, on fait le tournage, on se rencontre 3-4 fois avec chaque jeune, en sachant qu'il y en a un jeune qu'on n'entend pas dans le montage à la fin. Donc un tournage sur à peu près une année scolaire qui nous amène donc ça à juin 2023.
Et les jeunes, attends, tu les voyais tout seuls ou il y avait une dimension collective ou...
Non, alors c'est ce qu'on a là, c'est même ce qu'on a fait au final, c'est que des rendez-vous individuels. Enfin, il y avait l'idée à un moment de faire quelque chose de collectif, de les réunir. C'est compliqué pour des questions d'emploi du temps, de disponibilité, et puis à la fois même de mise en scène. Moi, c'était une idée que j'avais, mais ça n'a pas abouti sur quelque chose de très concret. Donc au final, ça reste des moments individuels. En sachant qu'il y a en jeu aussi la question du regard de l'autre, de qu'est-ce que tu dis quand il y a du monde autour, qu'est-ce que tu dis quand tu es tout seul, avec quelqu'un qui t'enregistre. Donc c'est pas anodin non plus, mais... Voilà, le registre du doc est resté celui de la conversation en tête à tête. Et le doc se termine, le montage du doc se termine en janvier 2024. Donc quasiment 4 ans après l'écriture. Donc c'est une temporalité très très étalée dans le temps. Bon, moi je fais aussi d'autres choses en parallèle, donc ce qui rend les choses des fois un peu longues comme ça. Mais je sais pas, je crois qu'il y avait besoin de ce temps-là aussi pour comprendre un petit peu de quoi on parlait, pour comprendre ma place, leur place dans cette histoire-là et quelle forme ça pouvait prendre.
Et ça, tu peux un peu raconter, du coup, toi t'es arrivé, t'avais une grille de questions ou c'était une conversation que vous avez fait, tu vois, je me demande, moi, du coup, comment ça s'est passé un peu, cette histoire, et aussi, qu'est-ce qu'ils ont modifié de ce que tu avais prévu, finalement?
Tout, ils ont tout modifié. non, mais oui, au début, j'arrive avec un pense-bête, en fait, des questions, des choses pour si besoin, avoir quand même un peu une direction. Et donc des fois, les rendez-vous d'enregistrement qu'on avait, ils duraient approximativement une heure en général, plus ou moins une heure. Et donc moi, j'ai mes questions, avec l'idée que c'est pas forcément ces questions-là que je vais poser pendant la rencontre. Et en fonction de leurs réponses, en fait, soit on développe sur des choses qu'ils amènent, soit je continue un peu avec mes questions. Et en fait, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que je les enregistrais, quand je rentrais chez moi, je réécoutais. Et à partir de là, j'essayais de creuser un petit peu dans leurs paroles pour revenir, soit avec des nouvelles questions, des choses qu'eux m'ont amenées, soit des choses auxquelles j'aurais pensé en les réécoutant, soit des éléments dont ils m'ont parlé et qui me semblent intéressants de creuser. Donc ça se fait comme ça, à chaque fois, on reprend en partie la rencontre d'avant pour essayer de développer un petit peu. Eux, ça leur laisse aussi le temps de réfléchir à ce qu'ils ont dit, parce que c'est pas forcément évident à 16, 17, 18 ans de prendre la parole sur ces thématiques-là, de savoir ce qu'on dit. Donc ça leur laisse le temps de digérer un petit peu, de réfléchir, pour certains d'en discuter aussi avec leurs parents ou avec leurs frères, sœurs, leurs amis, et de revenir ensuite avec des nouveaux éléments, quoi.
Parce que du coup, est-ce que tu te souviens ce qu'il y avait écrit sur ta petite annonce du CDI ?
Alors ça, c'est une question. Qu'est-ce qu'il y avait écrit ? Non,
Parce que les jeunes, ils t'ont écrit, parce que c'est cinq personnes que tu as vues plusieurs fois.
Ouais.
C'est ça ?
Alors j'en ai vu six, reste cinq, okay, à la fin. Ouais. Mm-hmm. Non, dans le CDI, il y avait marqué, je me souviens plus, participation à un projet documentaire radio autour des questions d'identité, cherche des jeunes qui sont concernés par ces questions, dont les parents seraient nés dans un autre pays et qui auraient envie de discuter de ça. Grosso modo, c'était un peu ça. L'idée, c'est que ce soit pas trop long pour qu'ils puissent quand même lire l'ensemble de la pancarte en passant comme ça au CDI. Après je marquais si vous êtes intéressé ou si vous avez envie d'avoir plus d'informations, si vous avez des questions, écrivez-moi. Je me souviens plus précisément.
Non, mais
ça fait longtemps.
Non, mais c'est déjà la plupart des infos, mais ouais, c'était pour savoir eux, c'est eux et elles, c'est quoi qu'ils ont vu avant de t'envoyer un mail et du coup de participer à ce projet qui était des têtes à tête.
Après, l'avantage, c'est que s'ils avaient des questions, il y avait donc la documentaliste Dominique qui était sur place et qui me connaît très bien et qui pouvait déjà leur donner des premiers éléments de réponse, leur expliquer un petit peu plus qui j'étais, parce que je pense que pour eux, c'est un peu étrange, quoi, de voir sortir cette annonce au CDI ou même de rencontrer quelqu'un qui ne connaissent pas, qui débarque un peu là avec des micros, avec toutes ces questions.
Oui, et en même temps, je trouve que ça dit aussi que les jeunes qui étaient là, ils étaient là pas de manière captive, comme ça arrive sur plein de projets, que ça soit du documentaire sonore ou autre, où du coup, il y a une participation un peu obligatoire. Là, c'est des jeunes qui ont lu une annonce et qui t'ont écrit, du coup, qui avaient envie d'être là, quoi.
Ouais, je pense que c'est ce qui a fait la différence aussi avec les tentatives du début où ça collait pas, c'est que là, voilà, ils avaient la possibilité, eux, de s'emparer de à partir de leur propre envie, en fait, de s'impliquer dans le projet. Et finalement, moi, j'ai passé un an et demi, voire deux ans à essayer de rencontrer des jeunes parce que maintenant je fais plus d'ateliers dans les lycées, enfin, parce que voilà, c'est pas forcément évident de faire la passerelle quand on n'est pas dans ces milieux. Mais ça m'a beaucoup surpris parce qu'en fait, les cinq jeunes qui m'ont contacté, tout de suite, dès la première rencontre, en fait, ils avaient beaucoup de choses à dire, ils avaient une réflexion là-dessus, même si ce qui m'intéresse dans le doc aussi, c'est tous les endroits de flou, la manière dont la pensée est en train de se construire et les endroits où ils ne savent pas aussi. Mais c'est vrai que ça a bien fonctionné parce que eux arrivaient avec leur envie, leur questionnement personnel et une vraie envie d'en dire quelque chose, quoi, ou en tout cas d'essayer d'en dire quelque chose.
Ouais, ben ça s'entend en tout cas. Et avant de passer à une autre question, t'as cité un documentaire, un autre documentaire de l'équipe de foot féminine. Mmh. Est-ce que t'as envie de donner le titre s'il y a des personnes qui ont envie de l'écouter?
Ouais, ouais. Alors ce doc s'appelle Celle du foot. C'est un documentaire que j'ai fait en 2016, il me semble. Donc toujours au lycée, à la cité scolaire Rive Gauche. Donc avec l'équipe de foot féminine du lycée, et on peut le retrouver sur internet, alors sur le SoundCloud de La Disquette, collectif La Disquette, ou sur mon SoundCloud perso, donc faut taper Julien Baroguel sur SoundCloud et je pense que on peut le retrouver de cette manière-là.
Et là aussi on peut retrouver Blade Rumeur.
Et on ne peut pas encore retrouver Blade Rumeur parce qu'il est en accès un peu
limité Blade Rumeur.
pour un certain temps. Mais voilà, je pense que très, très prochainement, on pourra le retrouver quand même. Ouais.
Ok. Et j'ai plein de questions, mais en fait, je vais pas toutes les poser parce qu'on n'a pas tout le temps du monde. Mais du coup, toi, pendant cette traversée-là, est-ce que tu avais... Enfin, je veux dire, tu avais des formes de tu t'écoutais les enregistrements, est-ce que tu lisais des choses, est-ce que comment aussi c'est une question, s'il faut tu lisais pas et t'allais pas chercher d'autres choses autour de ça, mais est-ce que toi aussi t'étais en recherche multiple?
Ouais, après c'est le point de départ aussi de ce travail là c'est un questionnement personnel en fait sur ces questions là à la fois de voir les débats sur l'identité nationale qu'il y avait en France, et puis sur des questions plus personnelles, puisque mon père aussi est né en Algérie, il n'y a pas eu forcément de transmission autour de ce pays, de cette histoire-là. Donc moi-même, j'étais empêtré un petit peu dans ces questions et dans ces sentiments-là. Donc ouais, il y a eu des lectures, il y a eu des films, il y a eu qui aurait certainement eu lieu aussi sans le travail, sans le documentaire. C'est vrai que ouais, moi j'aime pas forcément avoir des lectures, alors en tout cas théoriques sur ces questions-là, et peut-être voilà d'où le titre aussi finalement qui nous emmène complètement autre part. Donc je crois que le processus, il est un peu là-dedans. Et l'adolescence, après, d'aller chercher un peu chez ces jeunes, c'est quelque chose qui, comme avec les footballeuses, en fait, c'est un peu cette période de l'adolescence où on est un peu... où ces questions de construction, de regard des autres, de trouver sa place sont hyper fortes. Donc j'avais l'impression que c'était un moment où ces questions sont très condensées. Donc finalement, moi j'ai pas le même âge qu'eux, mais je trouvais intéressant d'aller chercher ce qu'ils avaient aussi à en dire à cet âge-là, à cet endroit-là, et notamment pas avec des réponses toutes faites, figées, parce que voilà, ce qui m'intéressait, c'était cette pensée un peu en train de se construire, finalement peut-être plus les questions qui se posent que les réponses qu'ils ont, et puis comment ils sont en train de découvrir tout ça, quoi, quelque part... Ouais, voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais je ne me souviens plus exactement des lectures que j'ai.
Les réponses à mes questions sont validées. Il n'y a pas de mauvaise réponse à Bras Zéro. Ça n'existe pas. Et justement, du coup, vu qu'on parle d'eux, moi, j'avais envie de savoir si tu sais ou si tu as des bouts de réponse de ça leur a fait quoi, ces rendez-vous, de se raconter, et ça leur a fait quoi de s'entendre, quoi. Puisque j'imagine qu'ils ont entendu le résultat final.
Ouais, il y a 3-4 mois, on a organisé une diffusion avec donc la plupart des jeunes qu'on entend dans le doc qui étaient là, justement pour avoir ce temps aussi de discussion derrière, de moi leur partager comment j'ai vécu ça, et puis qu'eux puissent me faire aussi un retour sur à la fois comment ils ont vécu le processus, qu'est-ce que ça a pu un peu bouger chez eux, notamment les discussions qu'ils ont pu avoir avec leur famille, et puis qu'est-ce que ça fait de découvrir un montage de 30 minutes quand t'as rencontré quelqu'un pendant un an et que t'as fait pour chacun 3 heures au moins d'enregistrement. Donc c'était hyper intéressant comme discussion. Ouais, il y aurait pas mal de choses à en dire. Ce qui, moi, m'a beaucoup touché, c'est que pour certains, pour certaines, ce n'était pas évident de laisser cette parole être diffusée. Sans, bon, là on diffuse à la radio, on peut diffuser sur Internet, en festival, on ne sait pas forcément qui écoute. Donc, il y avait plein de questions là-dessus. Donc, ça a permis qu'ils me posent ces questions-là. Ça m'a permis de les rassurer pour leur expliquer un petit peu comment ça allait se passer pour la diffusion. Ça m'a permis, ça leur a permis de partager un petit peu leurs appréhensions, quoi. Et puis je pense que le fait d'être là réunis finalement pour la première fois, ils voyaient aussi ce que leur témoignage personnel pouvait amener comme écho chez les autres et en quoi les uns et les autres pouvaient se nourrir. Et donc ça leur a donné une sorte de force, j'ai l'impression, de se dire, au début ils sont arrivés en disant j'ai envie de l'assumer et que ce soit diffusé, mais j'ai peur, donc je suis pas sûr. Et puis à la fin ils ont dit bon, j'ai envie, mais maintenant je me sens un peu plus la possibilité de le faire et c'est ok.
Et c'était quoi, quand tu parles de peur et d'appréhension, ça tournait autour de quoi, de se sentir jugé, de...
Ouais, de se sentir jugé, d'avoir une parole un peu fragile, en fait, parce que aussi, on est dans un monde où finalement, ça peut être... Eux, ils imaginaient aussi que ça allait être diffusé sur les réseaux sociaux, donc que ça, il pouvait y avoir un emballement, Bon, ils imaginaient que, enfin, ils savent pas vraiment
c'est
quelle diffusion
intime,
ça peut avoir. Ouais, c'est ça. C'est dire que ça sort d'une salle où ils sont tout seuls avec moi. En fait, ils savent plus trop où est-ce que ça va se retrouver. Mmh. Donc moi, j'ai pu leur expliquer que j'accompagnais les diffusions, que dans quel cadre ça allait être diffusé, quoi. Et leur proposer aussi de venir accompagner le doc ensuite. Après, la deuxième chose qui était marquante aussi dans cette diffusion-là et dans cette discussion, c'est vrai que moi, pendant tout le tournage, je ne leur ai pas raconté mon histoire personnelle.
Okay,
donc, je pense qu'ils étaient toujours un peu en train de se demander, mais pourquoi, en fait? Pourquoi ils s'intéressent à ce sujet-là? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, quoi? Et c'est marrant parce que c'est vraiment la toute dernière question qui est arrivée dans la discussion qu'on a eue ce jour-là avec les jeunes. Et finalement, on a discuté du fait que, moi, à la fois que j'avais pas forcément envie de que, on va dire, ma légitimité ou ma place vienne du fait de cette histoire-là, mais que j'avais envie qu'elle vienne dans la rencontre, en fait, et dans la confiance qui s'instaure. Et j'ai eu l'impression que c'était quelque chose qu'ils avaient trouvé plutôt intéressant, finalement, de pas avoir mon histoire personnelle, mais juste de pouvoir trouver la confiance pour livrer une parole, pour mettre la rencontre au premier plan. Et il me disait, ça donnait même l'impression finalement qu'on s'adressait aux auditeurs, quoi, qu'on n'était pas forcément avec quelqu'un qui vivait des choses similaires, mais qu'on ne savait pas vraiment à qui on s'adressait. Du coup, on s'adressait à peut-être une audience un peu plus large, quoi. Alors... Bon, voilà, c'était...
Non, ouais, c'était des... ouais, c'est intéressant. Ils avaient une prolongation toute la place de leur histoire.
Ouais.
Il n'y avait, avait pas la tienne. Ouais. Et du coup, à toi, ça t'a fait quoi, cette traversée, une fois que tu as entendu le documentaire fini?
Bah, moi, ça m'a permis de réfléchir, en fait, à ces questions-là avec eux pendant pas mal de temps. Je pense que par moment leurs mots, leurs paroles viennent s'incarner, ça me permet aussi d'avoir des mots que j'aurais pas eu moi-même, en fait, finalement, d'avoir des ressentis. Alors il y a une diversité, mais il y a plein d'endroits où ça fait écho, donc ça m'a permis aussi de, je sais comment dire ça, de faire émerger une parole un peu plus collective aussi, quelque chose de partagé, quoi, donc quelque part d'y trouver une place aussi. Il y a aussi quelque chose de cette dimension là enfin, en tout cas, de pas rester seul avec ces questions là même si, bon, on n'est pas seul, enfin, je veux dire, j'en discute avec plein de gens, mais de pouvoir avoir ces temps consacrés à ces discussions là Ouais, je pense que ça, c'est l'élaboration d'une sorte de parole collective, en tout cas à plusieurs. Ouais, ça m'a permis ça. Puis ça m'a, ouais, ça m'a permis de prendre du temps pour réfléchir à ces questions-là et peut-être passer en partie à autre chose pour la suite, quoi.
Ok. Mmh. Ouais, en tout cas, ça avait l'air d'être des temps précieux. Du coup, il reste, nous, du temps précieux, on n'en a plus. Du coup, s'il y a des personnes qui veulent te contacter ou pour une diffusion avec les jeunes et tout ça, est-ce qu'il y a un endroit où c'est possible de te contacter, peut-être au même endroit que tu as dit tout à l'heure, mais on peut le redire?
Ouais, alors il y a Collectif La Disquette, donc qui est à Toulouse, qui a un site internet. Donc je pense que si on tape Collectif La Disquette sur internet, on peut retrouver. Sur les SoundCloud, pareil, sur SoundCloud, Collectif La Disquette ou La Disquette, et sur SoundCloud, Julien Baroguel. Je pense qu'en tapant aussi Julien Baroguel sur internet, on peut retrouver un site, un mail, voilà.
Ok, donc voilà, si vous voulez contacter Julien Baroguel pour Bled Rumeur, eh ben c'est à cet endroit-là. Est-ce que tu as envie de dire une dernière chose sur la dernière minute?
Non, bah écoute, c'est la première fois que je le diffuse en public, on va dire, donc je suis très content. Je vous remercie de m'accueillir et de me donner cette possibilité-là. Et puis voilà, je crois que dans le contexte actuel, bon, c'est pas anodin, quoi. Donc voilà, je suis content de pouvoir faire entendre ces jeunes, d'autant plus malheureusement dans la situation dans laquelle on se retrouve là en ce moment, quoi.
Ouais, on est d'accord. Eh ben nous aussi c'était un plaisir de te recevoir avec Diane à la technique et moi là au plateau. Et pour nous Brasero, eh ben on vous dit à bientôt. Tout est très incertain mais on est encore là, on existe. Vive la radio libre et je vous dis force, courage pour les temps à venir. Et à bientôt dans la rue.